Le collège de Tuban sécurisé, il va pouvoir ouvrir la semaine prochaine avec l'accompagnement des forces de l'ordre. À l'étranger, l'Ukraine veut négocier avec la Russie après son incursion dans la région de Koursk. Kiev veut forcer Moscou à se mettre autour de la table. En Grèce, le feu se rapproche d'Athènes, le vent est tombé, ce qui facilite toutefois l'intervention des 700 pompiers déployés sur l'opération. La France a d'ailleurs envoyé des renforts. L'actualité religieuse, venez ici en procession, c'est le thème du pèlerinage de l'Assomption à Lourdes, le site qui retrouve sa fréquentation d'avant Covid. Le sport et Lille qui se déplace sur la pelouse de Fenerbahçe, match retour du troisième tour des qualifications à la Ligue des Champions. On joue en ce moment les prolongations. La météo en Nouvelle-Calédonie, le ciel commence à se dégager par endroits sur l'ouest de la Grande Terre. Le vent, lui, se maintient. Les températures maximales sont stables et proches des valeurs de saison. Elles montent jusqu'à 23 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, l'actualité sur le territoire.
Oui, avec les questions d'éducation et la DEC tout d'abord, qui répond par voie de communiqué aux deux courriers distincts qui lui ont été adressés lundi par la présidente de la province sud et par la membre du gouvernement en charge de l'enseignement. Dans ses courriers, elle s'étonnait de la mise en chômage partiel des personnels des internats de la DEC, internats qui sont fermés depuis le 13 mai et qui pourraient d'ailleurs le rester jusqu'à la fin de l'année, alors que le gouvernement et la province ont versé les sommes permettant à l'enseignement catholique d'assurer leur fonctionnement, Jean-François Bodin.
La DEC s'étonne d'abord que ses courriers aient été rendus publics alors même qu'elle n'en avait pas eu connaissance. Elle se livre ensuite à un long historique sur sa situation financière, rappelant la marche qu'elle a organisée en mai 2022 pour alerter les collectivités sur ses difficultés. À l'époque, la baisse des aides apportées par les collectivités était d'1,3 milliard. En novembre dernier, et après un plan d'économie interne à la DEC, les élus du Congrès avaient adopté une délibération pour rétablir l'équilibre financier des enseignements privés. Dans leur courrier respectif, la présidente de la province sud rappelait lundi que la collectivité avait versé les 620 millions prévus conformément à cette délibération et la membre du gouvernement en charge de l'éducation que les deux tiers des 550 millions à sa charge avaient aussi été versés et qu'elle s'apprêtait à verser le reliquat. Insuffisant pour garantir les frais des internats et des cantines jusqu'à la fin de l'année, souligne la direction de l'enseignement catholique, qui a demandé une aide exceptionnelle de 250 millions supplémentaires en début d'année pour boucler l'exercice 2024, qui est selon elle resté lettre morte. Sont arrivées ensuite les émeutes de la CCAT. L'enseignement catholique a prélevé 40 millions dans sa trésorerie pour réparer les dégradations dont certains de ses établissements ont été victimes, et elle doit faire face aux difficultés des familles qui ne peuvent plus assumer leur participation financière dans les mêmes proportions qu'avant, en raison des conséquences sociales de ces émeutes. C'est pour cette raison que la DEC a donc eu recours au chômage partiel pour ses 495 salariés, décision lourde, dit-elle, qui a pour but de préserver les emplois et de maintenir l'activité scolaire, même si cela va impacter certaines de ses activités annexes. En attendant, les internats des établissements scolaires de la DEC sont toujours fermés.
Merci Jean-François Bodin. Et puis toujours concernant les établissements scolaires du territoire, les élèves du collège de Tuban vont pouvoir effectuer leur rentrée normalement le 20 août prochain. Après plusieurs semaines de fermeture en raison des troubles quotidiens qui ont secoué le quartier, la vice-présidente du gouvernement en charge notamment de l'enseignement, Isabelle Champmoreau, nous a confirmé cette décision.
Au mois de juin, nous avions réouvert le collège et nous avions été contraintes de le fermer parce qu'on considérait que l'environnement sécuritaire n'était pas bon. Et là, on confirme que donc la réouverture du collège est bien prévue après les vacances scolaires. Donc le 19, c'est une réunion des personnels sur site. Et la rentrée des élèves se fera bien à partir du 20 août.
Et depuis la fermeture du collège, le gouvernement a donc réuni tous les interlocuteurs du quartier, notamment pour répondre aux inquiétudes des parents quant à la sécurisation de l'établissement.
On s'était engagé depuis la fermeture du collège à entreprendre plusieurs séries de réunions avec les partenaires. Alors ça inclut bien sûr la SIC, puisque c'est le bailleur, principal bailleur social du quartier de Tuban autour du collège. Mais nous avons aussi travaillé avec la mairie de Nouméa, qui a travaillé par exemple sur remplacer les luminaires au sein du quartier, nettoyer aussi les voiries. Et bien sûr, nous avons travaillé avec les forces de l'ordre. Et il y a eu des opérations des forces de l'ordre, mais aussi de la justice sur le quartier. Et aussi la sécurisation, ça se voit en passant dans le quartier, de certains appartements qui avaient été occupés illégalement et qui sont maintenant fermés. Donc on reste quand même très attentif à la situation, on fera des points réguliers et les forces de l'ordre vont aussi nous accompagner avec la présence de la police municipale et de la police nationale, je pense, les premiers jours et les premières semaines de réouverture du collège.
Isabelle Champmoreau, la vice-présidente du gouvernement, qui précise qu'un premier point sera fait dès la fin de semaine prochaine à la reprise des cours.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Approuvez-vous la réouverture à la rentrée le 19 août du collège de Tuban? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, 91% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pense que le succès des Jeux Olympiques de Paris aura des répercussions sur l'image de la France sur la scène internationale. Ils sont donc 9% à être d'un avis contraire. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Un rendez-vous sur votre antenne maintenant et cette question, 3 mois après le déclenchement des violences insurrectionnelles. Quelle est la situation sur le terrain? Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure avec Théophile Delassus, le directeur de cabinet du Haut-Commissaire. La situation du Mondor Sud, des quartiers de Nouméa, le renfort des forces de l'ordre, le maintien du couvre-feu, ce sont quelques-uns des thèmes que nous aborderons avec lui. Théophile Delassus, invité du matin, c'est donc à suivre à partir de 7h30 sur Radio Rythme Bleu. Et puis depuis le 13 mai, il y a 3 mois maintenant, les équipes de RRB sont restées pleinement mobilisées. Comme chacun d'entre vous et comme toutes les entreprises, Radio Rythme Bleu a subi les conséquences de cette situation particulière. Dans son personnel, avec des problèmes liés notamment aux difficultés de déplacement ou à la tension ambiante, nos équipes sont cependant restées mobilisées pour vous informer et vous accompagner. Et nous avons maintenu d'ailleurs l'essentiel de nos émissions. Mais nous avons dû aussi adapter et modifier notre grille pour faire face à la situation. Et nous allons progressivement revenir à la normale. Et nous voulions vous signaler d'ailleurs le retour depuis lundi de 2 rendez-vous d'antenne qui avaient été suspendus. Vous retrouverez désormais tous les matins à 5h50 la rubrique « Bonjour la Calédonie » qui vous fait partager l'actualité des communes calédoniennes. Et de la même manière, avec le retour timide hein, toutefois des activités culturelles, nous vous proposons de nouveau la rubrique « Par ici les sorties » qui est donc diffusée tous les jours à 10h30 et 16h10, deux rubriques réalisées par Kélinda Boiscou. Il est 6h passé de 38 minutes, vous écoutez Radio Rythme Bleu, la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, ce sera juste après la pub et on s'intéressera notamment à la question des transports publics.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Votre magasin La Halle continue son déstockage et c'est l'occasion de faire le plein de bonnes affaires avant sa fermeture. Jusqu'au 17 août, profitez de moins 40% sur tout le magasin. Oui, vous avez bien entendu, moins 40% sur tout. Alors venez vite nous rendre visite. La Halle Galerie Quartier Alma, centre-ville de Nouméa. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h.
Venez découvrir le premier salon des artisans calédoniens à la Maison des artisans de Nouville du jeudi 15 au dimanche 18 août. Plus de 80 exposants vous attendent. Sculptures, maroquinerie, bijoux, mais aussi mobilier, décorations, plantes vertes. N'oubliez pas de jouer au grand jeu Bluescope, partenaire officiel du salon, pour gagner un lot de jardinières d'une valeur de 50 700 francs TTC. Le premier salon des artisans calédoniens, c'est du 15 au 18 août à la Maison des artisans de Nouville et l'entrée est gratuite.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
La suite du journal est la CCAT qui avait annoncé des actions hier le 13 août pour marquer le 3e mois du début des émeutes, mais seuls des rassemblements de quelques dizaines de militants ont été relevés. Et essentiellement sur la côte est, Léana Colombo.
Dans le sud, un cortège d'une 60aine de véhicules a emprunté la RP1, mais il s'est heurté aux verrous mis en place à Saint-Louis par la gendarmerie. Les seuls affrontements recensés ont lieu à Poya, où des émeutiers se sont livrés à des caillassages et ont essayé de mettre en place des barrages de branchage, mais les forces de l'ordre sont intervenues pour les déloger. Ont été signalés hier un caillassage sur la RT1 à hauteur de Tomo. Hier toujours, des obstacles ont été constatés au nord de la commune de Païta, au niveau du pont Pen et à la Conception au Mont d'Or. Les axes routiers ont été bloqués hier matin, notamment entre le drive-in du pont des Français et le rond-point de Conception.
En bref, des blessés légers dans un accident de la route impliquant 4 voitures hier vers 16h20 après le pont de Coécara au niveau de l'embranchement entre Nouméa et le Mont d'Or. Des ralentissements ont été constatés le temps que les secours interviennent, mais la circulation a pu reprendre normalement l'heure suivante. Vous le savez, les transports publics sont toujours à l'arrêt, ils ne circulent plus depuis le début de la crise insurrectionnelle. Et le Soin que Transport souhaite mettre cette période à profit, le syndicat qui souhaite la mise en place d'une nouvelle stratégie de la mobilité, Léana.
Organisation, financement, sécurité, le syndicat dresse un constat sévère de l'organisation des transports publics routiers. Organisation qualifiée d'usine à gaz de par la complexité de son organisation et la multiplication des interlocuteurs. Taneo, Carouya, Car Sud, Rail, SMTU ou SMTI. Un maillage qui, selon le Soinc Transport, se révèle très coûteux pour le contribuable. Et le Soinc fait donc des propositions dans plusieurs domaines, explique Francisco Sionnet, le secrétaire général du Soinc Transport.
c'est l'occasion, en fait, la crise permet de réformer, de faire des réformes structurelles sur la future délégation de services publics. Ce qu'on propose, c'est vraiment simplifier le fonctionnement. D'une part, trouver peut-être, pourquoi pas, une SEM qui pourrait être l'intermédiaire entre la puissance publique et le privé. Mais après, notre proposition, elle se repose sur trois axes principalement. C'est le financement, la sûreté et la formation. C'est un support, c'est un projet. Je pense qu'il ne faut pas rester dans l'inertie pour répondre à la crise et dans la prise d'initiative. Et nous, les centres de transport, on est force de proposition en disant voilà un projet et de pouvoir travailler là-dessus.
Et sur la question du financement, le syndicat propose de s'inspirer du système métropolitain qui prévoit que les employeurs prennent en charge 50% des frais de transport de leurs employés, moyennant des déductions fiscales. Mais c'est aussi la question de la sécurité dans les transports qui doit être revue selon le syndicat. Elle ne date pas de la crise du 13 mai, mais là encore, on pourrait s'inspirer du système en vigueur en métropole.
C'est une réalité qu'on a souvent exprimée. Là, actuellement, début mai, entre avril et début mai, ils ont mis en place une nouvelle brigade de police des transports qui se résume quand même à une brigade de la police nationale de 10 agents. Cependant, je pense qu'il faut renforcer ces mesures-là, renforcées par d'autres brigades d'agents de sécurité, mais qui peuvent intervenir. Il faut s'inspirer de ce qui est en France, c'est la loi Savary, qui donne beaucoup plus de compétences pour ces agents de sûreté pour les transports publics, pour qu'ils puissent interpeller, en fait.
Francisco Sionnet, secrétaire général du Soin de Transport, qui a envoyé cet ensemble de propositions au SMTU en attendant l'organisation d'états généraux de la mobilité que le syndicat appelle de ses voeux.
Et de son côté, la FEDE fait des propositions au gouvernement dans le dossier délicat de la Caisse locale de retraite. Dans un courrier adressé à Louis Mapou, le syndicat déplore le vote par le Congrès de mesures jugées injustes qui font, je cite, « payer aux actifs et aux retraités les défaillances des employeurs ». La FEDE demande au gouvernement de prendre des initiatives pour que de telles extrémités ne se reproduisent pas et propose notamment de sanctionner les établissements défaillants par une suspension de prestations, alors qu'aujourd'hui la sanction est collective. Fin de citation. La FEDE qui propose aussi d'imposer par une loi aux employeurs l'obligation de payer en même temps les rémunérations et les cotisations sociales, ce qui aurait pour effet, selon la FEDE, de sacraliser le financement de la protection sociale. Et puis toujours en bref, la DTE s'installe dans ses nouveaux locaux. Les bureaux de la Direction du Travail et de l'Emploi ont été détruits par les émeutiers puisqu'ils se situaient au Plexus à Ducos, qui a donc brûlé, hein, vous le savez. À partir de lundi, les agents accueilleront le public dans leurs locaux de la CAFAT au Receiving. Il est 6h44, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité à l'étranger, mais aussi en métropole. Actualité à l'étranger marquée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La Fiat Panda hybride à 1 695 000 francs. Ou peut-être le pick-up Renault Rock à 2 295 000 francs. Et pourquoi pas le SUV Ford Kuga à 2 995 000 francs.
En ce moment, dans tout le groupe Jondo, difficile de choisir tellement les offres sont incroyables sur toutes les marques du groupe. Offre valable uniquement sur les véhicules signalés. Possibilité de financement et d'assurance tout risque avec nos partenaires. Plus d'infos sur les pages Facebook du groupe Jondo.
À ces prix-là, pas d'hésitation. On y va. Groupe Jondo, depuis 50 ans à vos côtés.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite de votre journal. On retrouve Nicolas Legrand.
Et l'actualité dans le monde, attaquée pour négocier. Les troupes ukrainiennes mènent une offensive de grande ampleur depuis une semaine maintenant dans la région de Koursk. Kiev qui affirme contrôler plus de 1000 km² en territoire russe. Une offensive légitime selon la diplomatie ukrainienne et qui explique qu'elle s'arrêtera si Moscou accepte une paix juste et met fin à son invasion de l'Ukraine. Kiev met donc la pression sur le Kremlin et espère un tournant majeur dans ce conflit. Geoffrey Branger pour Europe 1.
Oui, c'est assez paradoxal, mais certains voient dans cette avancée ukrainienne dans la région de Koursk en Russie une perspective de paix. En fait, la stratégie derrière ne serait pas d'annexer ces territoires, mais d'avoir un axe de négociation important avec Moscou dans l'objectif donc d'une paix juste, comme le demande Kiev, avec un compromis acceptable pour tous les partis. Eugène Berg est diplomate français, spécialiste de ce conflit.
L'objectif, c'est se présenter en meilleure position de négociation, soit en ayant des territoires, soit en acculant les Russes à négocier, montrer qu'on a une capacité de combattre par rapport aux alliés, au moment où les F-16 arrivent. Aussi important, c'est de remonter l'espoir des Ukrainiens. Ne lâchons pas, on commence à remporter, c'est pas le moment de baisser les bras, et ainsi de suite.
Kiev explique également vouloir protéger sa population avec cette offensive. Depuis début juin, la Russie aurait effectué plus de 2000 frappes depuis cette région de Koursk sur le territoire ukrainien de Soumy, de l'autre côté de la frontière. Enfin, cette incursion empêche également la Russie de déplacer des unités supplémentaires vers la région de Donetsk, où les troupes de Moscou sont à l'offensive depuis de nombreux mois.
Et puis plus de 120 000 habitants ont été évacués de la région, un record dans le pays depuis la deuxième guerre de Tchétchénie il y a plus de 20 ans maintenant. À ce stade, au moins 12 civils ont été tués et une centaine de blessés dans l'incursion ukrainienne, selon les autorités de la région de Koursk. Toujours à l'étranger, cette année encore, les feux de forêt ravagent la Grèce. Depuis trois jours, c'est la région de l'Attique qui est particulièrement touchée. Région où la Grande Athènes et ses 4 millions d'habitants résident. 10 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée. Plusieurs villes ont déjà procédé à des évacuations de leur population. La situation évolue très vite en fonction des conditions climatiques. Et justement, la nuit a été plutôt bénéfique pour les pompiers, notamment grâce à la chute du vent, comme le confirme le commandant Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France.
La nuit a été favorable pour les sapeurs-pompiers grecs, puisqu'on a senti une baisse du vent dès ce matin sur zone, ce qui a permis de ralentir de manière considérable l'évolution du sinistre. Il faut savoir qu'un feu se bat notamment la nuit, et c'est grâce justement à une action concertée directement sur le terrain que le feu aujourd'hui a ralenti en termes d'intensité.
Et une première victime des incendies a été retrouvée hier dans un magasin calciné au nord d'Athènes. Sur place, près de 700 pompiers accompagnés de 9 avions luttent depuis 3 jours contre le feu. Des renforts venus de 6 pays européens, dont la France, sont actuellement en route.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h47.
L'actualité politique en métropole maintenant, après Lucie Castet pour le Nouveau Front Populaire et Laurent Marcangeli pour Horizon, c'est au tour de Gabriel Attal, le Premier ministre démissionnaire, toujours en charge des affaires courantes, vous le savez, s'est adressé aux parlementaires des partis dits républicains dans une lettre ouverte. Et il propose un pacte législatif allant du Parti Socialiste au LR. Mayalène Trémollet pour Europe 1.
Gabriel Attal et Stéphane Séjourné veulent, je cite, « dépasser les clivages habituels pour se concentrer sur une demi-douzaine de chantiers prioritaires pour les Français, comme la qualité de vie, la santé ou le rétablissement des comptes publics, entre autres. » En clair, le Premier ministre se veut l'artisan d'un grand rassemblement qui irait de la gauche à la droite et permettrait de gouverner sans le RN ni les Insoumis, des partis qui représentent à eux deux plus de 200 sièges. Un déni de démocratie pure et simple, selon le député RN des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio.
Le pouvoir en place veulent voler leur vote aux Français. Il y aurait zéro changement, ni en termes de politique économique, ni en termes de pouvoir d'achat, ni en termes évidemment de sécurité et d'immigration. Donc c'est une dissolution qui n'a servi à rien, qui nous propose de continuer alors qu'ils ont été défaits par les urnes.
L'objectif, selon Gabriel Attal, c'est surtout d'éviter un blocage au Palais Bourbon, de créer une nouvelle voie pour que le bloc central puisse gouverner grâce à plusieurs alliances. Les Français ne peuvent pas attendre, écrit le locataire de Matignon pour conclure sa lettre, à quelques jours de la probable nomination d'un nouveau Premier ministre.
Et dans sa lettre, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a souhaité ajouter la souveraineté militaire comme priorité. Dans l'actualité religieuse, le pèlerinage de Lourdes a commencé hier, le premier à se dérouler normalement depuis la crise sanitaire de la Covid-19. Et pour l'occasion, des milliers de pèlerins ont fait le déplacement. Tout au long de cette semaine, des temps de recueillement sont organisés avec en point d'orgue la journée de demain, le 15 août, date de l'Assomption. Alexis Bourdon pour Europe 1.
Devant la grotte, point central du sanctuaire, ils sont déjà nombreux à se presser. Molly arrive tout droit du Royaume-Uni avec son fils atteint d'autisme.
C'est sacré quand vous êtes chrétien, et je le suis. Donc nous sommes venus pour cela et pour voir toute l'architecture. C'est magnifique.
Un peu plus haut dans la ville, des trains spécialement affrétés défilent à la gare. 680 malades arrivent des quatre coins de la France, comme Georges, en provenance de Lyon.
Pour moi, c'est indispensable chaque année. C'est vraiment quelque chose de... On peut partir en voyage n'importe où, mais Lourdes, c'est pas un voyage, c'est un pèlerinage.
Après 4 ans de restrictions en raison du Covid, les piscines d'eau sacrée dans lesquelles se baignent les malades sont de nouveau ouvertes. Un soulagement pour le père Sébastien Anthony, le président du pèlerinage.
C'est le retour à la normale. Nos équipes se sont mobilisées pour que ce soit possible, pour qu'on puisse vraiment accueillir dignement les malades et tous les pèlerins avec des flux maîtrisés, un accompagnement, des espaces de discernement. Je suis très très heureux.
Cette année, la fréquentation est en hausse de 30% par rapport à l'an dernier. Et on attend jusqu'à 30 000 pèlerins le 15 août. Lourdes, Alexis Bourdon, Europe 1.
Et puis toujours dans l'actualité, nous apprenons à l'instant, concernant l'actualité en Nouvelle-Calédonie, que l'église de Point-d'Imier a été totalement détruite par un incendie. Le feu a pris aux alentours de 4 heures du matin. Les pompiers sont toujours sur place. Ils ont réussi à maîtriser le sinistre qui a fait des dégâts très importants. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'origine criminelle ne fait aucun doute. On vient donc d'apprendre bien la destruction de l'église de Point-d'Imier dans un incendie. Il est 6h51, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité sportive avec notamment un tournoi de golf pour les jeunes sur le territoire.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
En panne de cash, marre du chèque, optez pour le portefeuille électronique CFP. Particulier, échangez de l'argent, remboursez vos amis, payez chez vos commerçants affiliés sans aucun frais. Simple, instantané, sécurisé et 100% gratuit. Commerçant, encaissez à moindre coût depuis votre mobile ou tablette et sans engagement. Si vous n'utilisez pas l'application, elle ne vous coûte rien. CFP, le portefeuille électronique qui vous simplifie la vie, sans frais. Rendez-vous sur www.cfp.nc pour plus d'infos et télécharger l'appli.
Le management vous intéresse? Rejoignez l'IAE de l'université et boostez votre parcours avec notre master MAE, Management et Administration des entreprises. Formation initiale ou reprise d'études, préparez-vous aux défis du monde des affaires et à l'international avec des intervenants universitaires et des professionnels experts. Alors, candidatez dès maintenant en ligne avant le 23 août pour rejoindre notre master MAE à la rentrée de septembre. Info pratique sur iae.unc.nc.
Université de la Nouvelle-Calédonie, bâtir, transmettre, rayonner.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive avec vous, Nicolas Legrand.
Et on commence par le football et Lille qui jouait sur les pelouses européennes ce matin. C'était le troisième tour des qualifications de la Ligue des Champions. Le LOSC se déplaçait sur le terrain de Fenerbahçe. À l'aller, les Lillois s'étaient imposés 2-1. Finalement, à l'issue du temps réglementaire, ils étaient menés 1-0. On a joué les prolongations et Lille, finalement, a égalisé 1-1. Et sur l'ensemble des deux matchs, c'est donc Lille qui est qualifiée pour le prochain tour. La Coupe du monde de rugby change de formule. World Rugby a confirmé qu'il y aurait bien 24 équipes qualifiées pour la compétition en Australie en 2027, soit 4 de plus que du dernier mondial organisé en France. Il y aura donc 6 poules de 4 équipes ainsi que des 8e de finale. Plus de matchs en moins de temps également, puisque la durée totale du tournoi sera réduite de 7 à 6 semaines. Du cyclisme, et c'était une double étape aujourd'hui sur le Tour de France femmes. Celle qui portait le maillot jaune, Charlotte Kuhl, a remporté la deuxième étape au sprint, comme la veille. Un triplé d'ailleurs néerlandais à l'arrivée à Rotterdam. Et puis plus tard dans la journée, les coureuses se sont retrouvées pour un contre-la-montre. Et c'est la patronne du peloton, Demi Vollering, qui a annoncé la couleur. Sur les 6,3 km, la tenante du titre, filant à 51 km/h de moyenne, s'est imposée avec 5 secondes d'avance sur sa plus proche poursuivante. La nuit prochaine, le Tour de France arrivera en Belgique avec une étape de 122,7 km entre Valkenburg et Liège. Et puis le sport sur le territoire pour les vacances scolaires. Le golf de Tina organise le challenge des petits cagous. Le tournoi a commencé hier, au total 4 jours de compétition qui réunissent tous les jeunes joueurs golfeurs du territoire. Explique Morgane Dufour, il est l'un des responsables au golf de Tina.
La catégorie est ouverte jusqu'à 21 ans, on a un joueur d'une vingtaine d'années. C'est très large et c'est tout niveau. On a des tout petits bouts de choux qui jouent sur 9 trous, ça leur permet de se faire les armes. Et puis des un petit peu plus âgés qui jouent sur 18 trous par catégorie et donc ils se frottent au parcours de Tina par 2 jours de qualification dans un premier temps. Et ensuite ils feront des match play entre eux, donc des 1 contre 1 jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un dans chaque catégorie. C'est vrai qu'on était, on est plus de 10 éditions du South Pacific Junior Open. On avait beaucoup d'étrangers qui avaient l'habitude de venir, beaucoup de jeunes qui sont passés par là. Donc c'est vrai qu'il y a une petite déception pour ces étrangers, mais également pour nos locaux qui aimaient bien se confronter à l'adversité étrangère et donc de pouvoir voir un petit peu au niveau national où est-ce qu'ils se situaient. Donc c'est une petite déception, mais bon voilà, on a décidé quand même de leur faire un tournoi pour qu'ils puissent quand même passer un bon moment, même s'il n'y a pas toute l'adversité habituelle, ils peuvent au moins passer un bon moment et jouer en compétition relevée.
Pierre Le Boulanger, 19 ans, est arrivé en tête au terme de la première journée de qualification hier.
C'était difficile, il y avait beaucoup de vent, les drapeaux étaient assez vicieux. Du coup, jouer les milieux de green, attendre que ça tombe et puis subir un peu les caprices de mère nature. Donc là, demain, c'est pareil qu'aujourd'hui, c'est du stroke play. Et à partir d'après-demain, en fait, on va tomber sur du match play. Donc ça va être du 1 contre 1, donc un joueur contre un joueur. Et en net, donc on va prendre les niveaux de jeu de chacun et puis ça va être compensé donc selon le niveau de jeu de chacun. Plus en fait on va être bas en index, plus c'est compliqué parce que dès qu'on va tomber sur des petits qui vont être 30 d'index, on va devoir leur rendre 15 coups sur 9 trous, ça va être compliqué.
Le golfe de Tina qui continue son activité malgré les difficultés rencontrées pendant la crise. Le site a réussi à être préservé, mais l'absence de touristes sur le territoire et quelques golfeurs en moins pourraient provoquer des difficultés à moyen terme, comme l'explique Dominique Ricot, directeur général délégué du golfe.
La crise, pendant un mois, eh bien, on n'a pas pu avoir accès au parcours, donc on a eu quelques petits problèmes sur les greens avec des maladies qui sont apparues. Notre greenkeeper a pu rétablir la situation, donc aujourd'hui tout est en place. Par contre, économiquement, effectivement, on est à une quinzaine, vingtaine de gens qui ont arrêté les cotisations golf. Donc si cet exode perdure, on va avoir quelques problèmes d'ici la fin d'année. Donc l'objectif, c'est de ne pas dépasser les 20% de pertes en pourcentage de départ des gens, sinon, effectivement, le dépôt de bilan risque d'être trop proche. Oui, le tourisme, c'était une économie pour nous sur le chiffre d'affaires qui était importante. Depuis le début de l'année, avec divers partenaires, on avait réussi à faire revenir des touristes, notamment par les bateaux. Donc les bateaux australiens nous rapportaient quand même une conséquence tous les mois, ce qui nous permettait d'avoir un chiffre d'affaires en fait, qui était positif, qui était au-delà de l'équilibre, donc un prévisionnel qui était au-delà de nos espérances. Donc le tourisme qui revenait en début d'année, c'était extraordinaire. Et puis d'un seul coup, voilà, tout s'arrête. Donc maintenant, je pense que pour les années à venir, 3 à 5 ans, ça va être compliqué d'attirer des touristes australiens ou du Pacifique.
Et donc le challenge des petits cagous a commencé hier, 4 jours de compétition sur le golfe de Tina.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, nous sommes en vigilance jaune avec un vent violent pour un vent orienté à l'est dépassant les 25 nœuds aux environs de 45 km/h sur Belley, Poum, Ouégua et Puébo et avec des rafales de 35 à 40 nœuds, 70 à 75 km/h pour aujourd'hui, donc mercredi, jusqu'à ce soir. Ce matin, le ciel sera très nuageux à couvert en général avec quelques gouttes possibles sur l'est. Sur l'ouest, des éclaircies perceront parfois sous un ciel juste voilé. Le vent de secteur est reste soutenu, souvent compris entre 20 et 25 nœuds. Avec des rafales de 30 nœuds, elles dépassent localement les 25 voire 35-40 nœuds sur la pointe nord et l'extrême nord-est. En revanche, il sera moins fort sur l'ouest, entre 10 et 15 nœuds, et malgré quelques rafales en sortie de vallée. Cet après-midi, le ciel se dégagera par endroits sur l'ouest de la Grande Terre. Ailleurs, les nuages seront bien présents et donneront quelques gouttes sur la façade est, la chaîne sud, voire au Loyauté. Peu d'évolution côté vent, il reste rapide de secteur est autour des 20-25 nœuds et des rafales jusqu'à 30 nœuds. Sur la pointe nord et l'extrême nord-est, il se maintient toujours autour des 25 nœuds et des rafales jusqu'à 35 nœuds. Toujours moins fort sur l'ouest, autour des 15 nœuds, mais avec des accélérations en sortie des vallées du nord-ouest. Les températures maximales sont stables, proches des valeurs de saison. Elles montent jusqu'à 23 degrés sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.